Si le matin, t'as envie d'écrire, c'est que t'es une écrivaine. Si le matin, t'as envie de faire de la poésie, bah, c'est que t'es poète. Et si le matin, t'as envie de te lever et que t'as envie de chanter, bah, c'est que t'es une chanteuse. Je pense que tout est là, en fait. Tout est là.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado 3.0. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on a une belle discussion qui s'en vient avec Christian, François. Bienvenue à vous. Comment ça va?
Ça va, et toi, Julien?
Super.
Ça va super bien, merci. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'avais une question pour vous et j'aimerais qu'on creuse un petit peu le sujet ensemble. Alors, on parle d'investissement. On sait que c'est une chaîne qui va tourner beaucoup autour de ça. Et investir, c'est très bien. Mais finalement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi on investit? C'est pourquoi faire? Est-ce qu'on investit juste voilà, pour avoir un bon niveau de vie et puis c'est correct ou est-ce que c'est pour sortir finalement de cette espèce de roue du temps où on est tout le temps coincé, on doit voilà, métro, boulot, dodo et finalement on n'a plus l'occasion ou la chance de faire ce qu'on aime vraiment. Alors est-ce que l'investissement finalement c'est une passion en soi ou est-ce que l'investissement nous permet de vivre de notre passion? C'est un petit peu ces sujets-là que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut commencer avec toi, François, peut-être?
Ouais, c'est une belle dualité que tu parles. C'est vrai que c'est quelque chose moi, qui me parle bien. Pour faire simple, je pense que si on n'est pas passionné par l'investissement, déjà, enfin, c'est un premier point. Si on n'est pas passionné par l'investissement, ça va être compliqué d'investir correctement et de faire les choses bien et de perdurer. Prospérer, d'avoir des bons résultats et un bon rendement. Maintenant, je ne pense pas que ça doit être non plus le but de juste faire de l'argent. Parce que si on est juste là pour faire de l'argent, on perd le sens de pourquoi on le fait. Donc,
Ça apporte pas grand-chose en soi.
non, ça apporte pas grand-chose en soi. Donc, il faut quand même qu'il y ait une motivation derrière le fait de faire de l'argent, même si ça peut être une passion de, voilà, de s'intéresser à ce sujet, de comprendre comment ça fonctionne, de mettre en place les actions. Ça peut être une passion. Mais faire l'argent en soi n'a que très peu d'intérêt, si ce n'est apporter un plus sur ce qui est déjà existant dans notre vie. C'est-à-dire que pour moi, je vais aller à l'inverse peut-être de beaucoup de personnes sur ce point-là. Il ne faut pas être entrepreneur pour décider d'investir. C'est pas juste pour une élite. Entreprendre, investir n'est pas réservé à juste une élite, à une masse de personnes qui souvent d'ailleurs on a l'impression qu'ils contrôlent un peu tout cet univers et nous on n'y a pas, enfin l'investisseur classique lambda, le particulier n'a pas accès finalement à ça. Et je pense qu'il faut bien comprendre qu'un n'importe qui peut investir et qu'un salarié a d'autant plus d'intérêt à investir que quelqu'un qui entreprend. En tout cas, tout autant.
Oui. Mais c'est l'image qu'on veut casser un peu justement, effectivement, que l'investissement, finalement, c'est un outil qui est à la portée de tous. Plus encore aujourd'hui, avec tous les nouveaux outils qui existent, avec la nouvelle finance, la finance décentralisée, par exemple, on en a déjà un peu parlé, on en reparlera en long et en large sur cette chaîne-là. Mais c'est l'idée, effectivement, que c'est un outil qui est à la disposition de ceux qui le veulent. Et on a beau dire ce qu'on veut, on vit encore dans une société capitaliste. Et quand on a compris les règles du jeu et qu'on est capable, on travaille toute notre vie finalement pour gagner de l'argent.
Exactement.
Pourquoi ne pas faire travailler notre argent pour gagner notre vie? Je
Non, mais
suis sur
c'est
le
exactement ça.
l'épisode des dualités, mais c'est ça finalement.
Non,
Donc ce qu'on veut proposer, c'est des outils simples et casser cette image que c'est réservé à une élite et qu'on est obligé de passer par des hedge funds, des gens qui vont gérer notre argent. Alors si vous avez une passion de l'investissement finalement, vous pouvez le faire vous-même. Si ça vous horripile, on peut le déléguer, mais au moins avoir cette espèce de vocabulaire de base et de compréhension. Il y a des choses, je pense, très simples qui peuvent se mettre en place et qui demandent très peu de temps finalement.
Totalement.
D'accord avec ça, vous êtes
Totalement.
d'accord tous les
Bah,
deux?
je pense qu'on là, tu vois, par exemple, le truc, la première chose qu'on pourrait faire, et bon, comme ça me permettrait de me bouger un peu les fesses, donc je vais me mouiller sur le coup, mais ça serait par exemple de lire le livre que j'ai écrit qui t'explique en fait comment mettre en place une assurance vie. Ça va te prendre une après-midi à lire le livre et ça va te prendre une après-midi certainement à mettre en place ce qui est écrit dans le livre. Et derrière, bah, tu as quelque chose qui tourne et où tu as besoin techniquement d'y passer 10 minutes par an, grand maximum.
Où est-ce qu'on peut trouver ton livre ?
On le trouvera sur mon site internet dès qu'il sera fait.
D'accord, ok. Donc, tu t'engages à le mettre en ligne d'ici la publication de l'épisode, peut-être ? Probablement, tu as le temps.
j'aimerais bien. Non, actuellement avec
ça va être quoi ton adresse URL ?
L'adresse URL, c'est libredinvestir.com.
Ok, donc libredinvestir.com. Vous pouvez aller voir tout de suite si François fait son taf. Et si le site est en ligne, du coup, on peut télécharger ton livre en PDF gratuitement, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Ok, cool. Bon, bah, c'est un beau cadeau que tu fais aux gens qui nous écoutent. Et quelle était l'idée derrière ce livre-là ?
L'objectif, c'était de rappeler en fait aux gens les premières étapes avant d'investir. Parce qu'on se fait avoir actuellement, on se fait avoir avec... les réseaux sociaux, avec ce qui est vendu par la majorité des personnes qui sont sur le marché du make money. C'est beaucoup de « je vais investir, bah, je vais apprendre à trader, je vais apprendre à faire du scalping ». Donc scalping, c'est faire du trading, mais sur du très court terme, de l'ordre de la seconde, de la minute. Ou je vais être day trader, donc je vais trader sur des horaires de la journée. Bref, je vais devenir trader, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui me semble un petit peu compromis.
C'est une idée romantique. Il y a quelque chose de séduisant là-dedans. On veut être comme dans les films, parce que ce qu'on nous montre, c'est des salles de trading avec des gens sous pression qui sont en train d'acheter, revendre très rapidement. Et du coup, je pense que dans la conscience et le collectif, c'est cette image qu'on a quand on veut investir et qu'on veut faire beaucoup d'argent, parce qu'on sait que les traders, ils font beaucoup d'argent. Ils en perdent beaucoup aussi, mais ça, on nous en parle moins.
Exactement.
Donc, je pense que c'est effectivement... Pour ça, à mon avis, c'est très marketing. En tant que YouTuber, aujourd'hui, je vais me lancer dans le Make Money, je vais vous parler de ça. Je sais que je vais vous accrocher tout de suite.
Maintenant, la tendance, ça va être la crypto. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
C'est un piège, parce que ce n'est pas la première étape. Et c'est peut-être même pas une étape nécessaire, finalement.
Non, même pas du tout. Et c'est vraiment ça. Et pour vous le dire, puisque moi, je suis passé par là, j'ai commencé par ça, j'ai fait exactement ça. Donc, j'ai bien compris l'erreur que j'ai faite. Et je suis triste d'ailleurs qu'on ne m'ait pas dit que c'était une erreur, en fait. Qu'on ne m'ait pas dit au tout début, quand je me suis formé, mais en fait, ça vient après. C'est une petite partie de ton capital que tu peux allouer sur ça et où tu peux essayer de faire un peu d'argent. Mais voilà, les chiffres sont là. Souvent, tu vas commencer à trader, tu vas trader sur ce qu'on appelle les CFD. Donc les contrats for difference, donc c'est des produits dérivés qui te permettent d'avoir un effet de levier et donc de pouvoir investir avec très peu de capital mais d'avoir un retour sur investissement très fort, mais en même temps le risque est là, quoi. Le retour sur investissement peut être fort mais la perte aussi peut être forte, et majoritairement 80% encore des investisseurs qui utilisent ce type de produit sont en perte. J'avais retenu la perte moyenne d'une personne qui investit, elle est aux alentours de 10 000 euros. C'est énorme, 10 000 euros.
Oui, parce qu'au final, on commence avec un petit capital. Il y a aussi un peu ce côté où on veut faire rapidement de l'argent. Moi, c'est un piège dont j'ai été victime encore récemment, de dire quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais investir correctement.
C'est ça.
Là, j'aurai un capital qui me permettra de diversifier, d'être dans l'immobilier, de faire les choses correctement. Mais en fait... C'est un grand piège de penser ça, parce que si j'avais investi correctement dès le début, j'aurais développé des habitudes, un processus que je n'aurais que à poursuivre finalement pour que mes résultats tranquillement montent et montent en puissance, que mon patrimoine grossisse.
Donc, exactement.
Oui, c'est un piège facile effectivement dans lequel on peut tomber.
Et ça, je pense que c'est l'erreur numéro une en fait que l'investisseur fait, c'est qu'en fait elle s'attarde sur 5% en fait de l'allocation de son portefeuille techniquement, mais elle oublie les 95%. Les 95%, t'en fais quoi ? Tu fais quoi avec ? Ben en fait, tu fais ce qui est marqué dans mon putain de livre. Il faut d'abord que tu crées une assurance vie. Il faut d'abord que tu comprennes comment fonctionnent les marchés. Tu comprennes la loi de l'offre et la demande. Tu comprennes ces systèmes-là. Qu'est-ce qu'une obligation ? Qu'est-ce qu'une action ?
Okay. Donc là, si on revient sur le sujet, parce qu'on a l'impression qu'on s'en est écarté, mais en fait, c'est vraiment dessus. C'est-à-dire que finalement, de passer d'un investissement actif et quotidien à un investissement finalement passif qui se gère tout seul, on va libérer du temps.
C'est exactement ça.
Et donc, ce temps, comment on l'occupe ? Et là, on revient à la passion, et j'ai envie de passer peut-être la parole à Christian. Toi, tu es de nous trois toujours celui qui nous ramène un peu à l'ordre quand on peut devenir voilà, très enflammé, très, très passionné par toutes ces histoires d'investissement. Tu nous rappelles toujours comme il est important d'évoluer aussi avec, sur son X, en fait, et de rester proche de ses valeurs et de ce qui nous anime vraiment. C'est quoi ta vision de tout ça, Christian ?
Ouais, c'est très juste. Je pense que on peut vite tomber dans dans une société aujourd'hui qui nous pousse à... Enfin, y a beaucoup de le fameux syndrome de l'objet brillant. Et si on manque de conscience sur ce qui nous apporte de la valeur, et comme on en avait parlé au podcast précédent, à l'épisode précédent, si on n'a pas conscience de quelle est notre propre définition de c'est quoi une vie réussie, une vie qui est pleinement nourrie, on peut tomber dans cette illusion qu'on nous vend aujourd'hui énormément dans les films, dans les médias, que l'argent va être finalement une solution qui va régler tous nos problèmes. En fait, j'aime beaucoup cette idée que l'argent, il ne fait que régler les problèmes d'argent, en fait. Finalement, l'argent va permettre à la fois d'augmenter nos possibilités, mais il va également augmenter la complexité. Et donc, c'est déjà d'apprécier sa situation telle qu'elle est.
Exactement.
Pour pas être en mode de « je fuis ma situation » avec cette illusion de croire que quand j'aurai plus d'argent, ça sera mieux, parce que ça sera pas mieux, il y aura d'autres challenges d'une autre nature, sous une autre forme. Et donc c'est déjà être en paix avec sa propre situation, d'être déjà dans une forme de reconnaissance de ce qu'on a. Et à partir de là, finalement, on n'est plus dans « je vais chercher cet argent avec une intention de combler un vide », parce qu'on prend conscience qu'il n'y a aucun vide à combler, tout est déjà très très bien comme ça. Après, on peut avoir des objectifs qui vont plutôt venir du coup nourrir une vision, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui vient peut-être nourrir nos valeurs. Et là, ça devient intéressant aussi de comprendre ces valeurs, parce que on va automatiquement réutiliser l'argent qu'on a gagné dans ce qui a le plus de valeur pour nous. Moi, je l'ai bien vu, à chaque fois que j'avais un peu d'argent, en fait, ça n'avait pas de sens pour moi de l'investir, parce que je le voyais comme une... Enfin, ça n'avait pas de sens, en fait. Faire plus d'argent pour faire plus d'argent, pour moi, je ne voyais pas l'intérêt. Par contre, ça faisait du sens pour moi de l'investir dans des connaissances pour pouvoir mieux me connaître, pour pouvoir impacter plus profondément la vie des personnes que j'avais l'opportunité d'accompagner par des meilleures compréhensions sur le fonctionnement humain. Donc ça avait de la valeur pour moi, donc j'ai investi sans compter à cet endroit-là, et comme on en avait parlé encore une fois à l'épisode précédent, du coup je suis plutôt allé dans cet investissement personnel, plus que financier. Mais les deux se rejoignent en fait, et je comprends aussi aujourd'hui que si j'avais aussi utilisé ces stratégies-là, toutes ces stratégies, j'aurais pu finalement aller encore plus dans ce qui a de la valeur aujourd'hui pour moi. D'où l'importance aussi de redéfinir une certaine priorité et de redonner de la valeur finalement à l'argent, en se disant « Ok, en fait, quels seraient finalement les 20-30 avantages à prioriser l'argent par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qui a de la valeur pour moi aujourd'hui ?» Et là, j'aurais pu voir qu'en effet, ça m'aurait permis peut-être d'aller chercher des formations avec, on va dire, un autre niveau, avec des mentors plus expérimentés. Et donc, du coup, j'aurais pu peut-être donner plus de sens au fait d'investir, parce que j'aurais vu en quoi, dans mes valeurs à moi, ça aurait pu être intéressant. Et là, peut-être, ça m'aurait donné plus d'énergie à le faire. Mais aujourd'hui, c'est logique, l'argent va aller de la personne qui le priorise le plus, de la personne qui le priorise le moins plutôt, à aux personnes qui le priorisent le plus. Si aujourd'hui l'argent il a moins de valeur que ma famille, eh ben, je vais peut-être le dépenser pour faire plaisir à ma famille, pour aller au restaurant, pour leur faire les bons repas, ou pour vivre une expérience, partir en voyage, etc. Et puis il va aller de main en main jusqu'à ce qu'à un moment donné, il tombe dans les mains de quelqu'un qui le priorise plus et qui va peut-être l'investir, le garder, le faire fructifier, etc. Et donc on va voir comme ça des migrations. Et en fait, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste que bah, chacun a trouvé du sens par rapport à ce qui est important pour lui. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, c'est ultra intéressant. Et pendant que tu parlais, tu m'as fait réaliser une chose, je pense, c'est qu'on parle de valeur et l'enjeu est peut-être dans la définition des objectifs, finalement. Je m'explique. Moi, je pense que pendant longtemps, mon objectif, c'était faire de l'argent. Mais ce n'est pas un objectif en soi parce que c'est un objectif infini. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas toujours, tu ne peux pas le cocher, celui-ci.
Oui, si tu définis ton objectif comme faire de l'argent, ce n'est pas, pas spécifique.
Ce n'est pas spécifique, exactement. Alors que quelqu'un du coup, qui dit, bah, moi, mon rêve absolu, c'est quoi? Mon rêve absolu, c'est peut-être d'avoir un van et de voyager à travers le monde. Ok, parfait. Ça peut se quantifier. Ça coûte combien un van aujourd'hui? Tu veux voyager dans quel pays? C'est quoi le niveau de vie là-bas? Parfait. Si tu ne dois pas travailler parce que tu vas être occupé avec ton voyage ou à faire de la photo ou à faire de la musique ou peut-être juste rencontrer des gens, triper, surfer, je ne sais pas quoi, il faut que tu aies assez d'argent pour survivre. Donc manger, nourrir, voilà, tu dors dans ton van, peut-être que de temps en temps tu veux louer des chambres dans les hôtels, etc. Ça se budgète. Et si tu es capable d'amasser assez d'argent, ce chiffre X qu'on va appeler, et d'avoir une somme, un patrimoine qui te rapporte de façon passive ton X, c'est gagné. Tu peux arrêter là, tu comprends, et tu peux vivre ton rêve. Alors vas-y François, je vois que tu veux réagir par rapport à ça.
C'est ça, en fait, tu viens de décrire ce qui s'est passé il y a 10 ans pour moi quand je suis sorti du lycée. C'est exactement la réflexion que j'ai eue. Pourquoi je voulais faire prof de maths à un moment donné, ça je ne l'ai peut-être pas forcément dit la dernière fois, mais il y avait cette capacité d'avoir du temps pour soi. Ça c'est vraiment très important pour moi, d'avoir du temps pour moi, de pouvoir faire autre chose, être dans la créativité. J'aime particulièrement la musique, le chant, la guitare. Et à l'époque, j'avais même, pour tout vous dire, à la fin du lycée, je m'étais dit, mais en fait, vas-y, lâche tout, va à la fac, tu vois, tu fais fac de maths psycho, t'essayes de travailler pour pouvoir avoir ton diplôme ton diplôme d'enseignant, hein, devenir prof, mais te prends pas la tête à faire une école d'ingé, et comme ça, t'as du temps encore plus pour toi, puisque à la fac, quand même, normalement un petit peu plus cool qu'en prépa, et tu feras de la musique, tu pourras t'acheter, je voyais déjà m'acheter mon petit ampli qui était à pile, donc qui permettrait de pouvoir me produire dans la rue. J'avais vraiment cette idée de vivre en fait de ma passion. Sauf que je ne sais pas si ça vient de papa, si ça vient de la manière dont on a appris à, comme je disais la dernière fois hein, dans le podcast précédent, c'était un peu tu as des responsabilités quand tu deviens un homme, donc tu dois payer tes factures, tu dois payer, la vie est compliquée, il faut que tu fasses les choses. Je voulais pas tomber dans cette idée que j'allais galérer dans la vie parce que je voulais vivre de ma passion. Et en fait, il y avait un peu comme cette dissonance en fait en moi en me disant vivre de sa passion, c'est pas possible, ou même ça va dénaturer ma passion. Je vais plus profiter aussi bien de ma passion si je dois en vivre. Parce que du coup, je vais avoir une contrainte de créativité obligatoire pour pouvoir avoir de l'argent et pour pouvoir vivre de tout ça. Et donc, il y a un moment donné où je me suis dit, ah, ok, d'accord, très bien. Donc, dans ce cas-là, on va faire ce que tu viens de décrire, Julien. On va en fait créer un système qui fait que je vais gagner de l'argent et à côté, je vais pouvoir faire ma passion. Et du coup, j'aurai plus besoin de vivre de ma passion puisque j'aurai l'argent à côté qui tournera. Donc, il y avait un moment où je me disais, ok, je vais faire prof. Je vais même faire prof, vous savez quoi? Je vais faire 6 mois et en fait, on peut faire ça dans l'éducation nationale, en fait, se mettre 6 mois en off. Mais en fait, on a un salaire quand même toute l'année.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, alors, ton salaire est plus petit, hein, forcément. Mais bon, tu peux partir, par exemple, dans les îles. Lycée, dans les îles. Ouais, et dans les îles, ce qui est pas mal, c'est que tu es bien payé. Tu es mieux payé en tant que prof. Et puis, tu peux faire 10 heures sup. Donc, du coup, tu fais pendant 6 mois, tu travailles comme un dingue. Et après, pendant les autres 6 mois, tu peux faire complètement autre chose. Donc, j'avais réfléchi à des systèmes comme ça. Dès le début, dès la sortie du lycée. Mais je connaissais pas l'investissement, je connaissais pas le trading, je connaissais rien du tout. Donc, il y a toujours eu cette idée, en fait, de me dire, OK, ta passion, elle doit te nourrir, mais elle doit pas te nourrir avec de l'argent, elle doit te nourrir avec des émotions. Elle doit te nourrir ton âme, ce que tu vis. Donc, à côté, mets en place ces choses-là. Mets en place pour pouvoir avoir cet argent et pouvoir en vivre sans pour autant passer toute ta vie à faire que travailler, à être dans ce train-train, cette rat race. C'était vraiment se dire, OK, comment je fais pour aller le plus vite possible au capital nécessaire pour avoir un revenu passif qui me permet de pouvoir finalement faire ma passion. Donc c'est un peu l'inverse total que ce qu'a décidé Christian. Christian, lui, il est parti de la passion, il a dit « Ok, moi c'est la passion et je m'en fous du reste, j'investis en fait en moi et en ma passion. » Moi, c'était l'inverse en fait. Je me suis dit « Ok, très bien, je vais laisser ma passion de côté, quitte à ne plus faire de guitare et plus de chant pendant 5 ans. » Ce qui était triste, au fond, parce que du coup, tu t'oublies. Mais, d'un autre côté, maintenant, j'ai un capital qui va me permettre, techniquement, à partir de l'année prochaine, de pouvoir reprendre tout ça.
Alors là, j'ai plein de choses à dire. La première, c'est qu'on est vraiment au cœur du sujet. Merci pour ça. Finalement, la question, c'est vivre de sa passion ou vivre pour sa passion ? Et la question que j'ai envie de te poser maintenant, juste pour rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire, et ensuite, on va faire tourner la parole. Christian aussi, je veux entendre ce que tu as à dire là-dessus. Si c'était à refaire, François, est-ce que tu le referais pareil ? Ou est-ce que tu aurais une autre approche aujourd'hui ? Parce que de mon côté, j'ai l'impression qu'avoir mis de côté complètement ta passion pour atteindre plus vite tes objectifs financiers qui te permettraient... Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu
Je pense qu'il y a une erreur. En fait,
qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre ?
En fait, pour moi, si tu arrives à le réaliser, c'est OK. Tu vois, parce qu'il y en a qui, du coup, c'est la crise de la quarantaine, tu vois. C'est des personnes qui oublient ça, il y a 40 ans, ils disent « Putain, merde, j'ai fucké quelque part ». Tant que tu l'as encore en tête, c'est OK. Tant que tes objectifs, ils sont clairs, c'est OK. Mais je pense que j'aurais pu faire différemment, parce que je pense qu'à la fois, je pense que Christian est dans le faux, et à la fois, je suis dans le faux. On est tous les deux dans le faux, et on pourrait juste aller chercher le Tao, en fait. On pourrait juste chercher le milieu, le bon truc. C'est-à-dire que si c'était à refaire, je continuerai le chant, je continuerai la guitare. Même si je dois travailler très très dur, tant pis, c'est quand même ma passion. Donc en fait, j'enlève une partie de ce qui doit me rapporter de l'argent, 10, 15, 20%, ça se verra peut-être pas forcément, ça me perdra peut-être un petit peu de temps dans l'atteinte de l'objectif de pouvoir générer un revenu passif, c'est pas grave. Parce qu'à côté, en fait, je me nourris. Et potentiellement, même cette nourriture de cette passion m'aurait permis à finalement combler le temps perdu. Parce que quand on est passionné, quand on fait des choses et qu'on se nourrit, comme je disais, son âme, c'est autre chose que de l'argent. Et là, on a des forces insoupçonnées, on a des réflexions qui peuvent se faire, des idées qui peuvent émerger. Je pense, Julien, tu es en plein là-dedans en ce moment. Donc, tu vois très bien de quoi je parle.
Christian, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus ?
C'est un peu l'histoire de ma vie. Hein. Je me retrouve dans tout ce qui est partagé. Et je vois qu'en fait, c'est dingue. On a vraiment des chemins qui sont complémentaires. Et c'est un peu l'idée de ce podcast aussi. Hein. C'est de combiner toutes ces expériences, tous ces parcours pour que, voilà, finalement, nos auditeurs puissent s'inspirer de tout ça et peut-être trouver un équilibre. Ouais, c'est ça, quand tu dis vivre de sa passion ou vivre pour sa passion, ça me fait penser à Molière quand il disait manger pour vivre ou vivre pour manger.
C'est Molière qui avait dit ça ?
Ça, je sais pas, je suis trop mauvais là-dedans.
Si. C'est ça, c'est dans... c'est pas Molière qui l'a dit, mais au travers d'une de ses pièces, je sais plus, je crois que c'était peut-être l'avare, ouais. L'avare de Molière, je me souviens. Et lui, il voulait qu'on mange pour vivre et pas qu'on vive pour manger parce que ça coûte trop cher. Mm. Et c'était manger le minimum juste pour substanter. Mm. Bref, mais moi, ça m'a toujours un peu dérangé finalement de dire faire quelque chose pour vivre. En fait, on est vivant de base. Après, j'entends, enfin, il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. En fait, moi, je suis convaincu que si on est pleinement aligné sur notre X, sur notre zone de génie, sur notre zone de Mozart, il y a plein de noms pour l'appeler, son potentiel. Je dis pas que le chemin va être facile, je dis juste qu'il va être naturel. Là-dessus, je reprends la citation d'Albert Einstein qui dit « Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » Ça a été un peu le parcours de mon enfance à l'école. Et longtemps, j'ai cru que voilà, j'avais pas de valeur. Donc c'est ce qui m'a aussi amené à me convaincre au travers d'outils de connaissance de soi, de me dire « Mais je dois forcément avoir quelque chose. » Enfin, j'espère. Et à chaque fois, je faisais un questionnaire... un outil de connaissance de soi, j'essayais de voir ce qu'il pouvait y avoir de bien, en fait. Et ça m'a permis, finalement, plus que de me connaître, de me donner cette autorisation de croire en moi et de me dire, j'ai peut-être quelque chose à apporter. Et puis, c'est vrai que c'est toujours difficile de se juger soi-même. Enfin, c'est bien aussi d'avoir, des fois, le retour de son entourage. Et en fait, finalement, je pense que si c'est pleinement exprimé, ça peut apporter de la valeur. Et je pense que ça sera toujours plus facile d'aller dans une direction qui nous nourrit au fur et à mesure, parce qu'on le sait, c'est pas tant, finalement, une question de destination, mais surtout une question de voyage. Et ça, j'ai clairement intégré sur mon chemin entrepreneurial. Si on n'est pas capable de se projeter à faire cette journée qui va nous permettre de semer cette graine, qui va un jour nous permettre de récolter ce fruit, en fait, ça va être très compliqué, en fait, et on risque... Et aujourd'hui, il y a peu de gens qui en parlent, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent dans des qualités de vie, finalement, qui sont extrêmement médiocres, parce qu'elles se sont retrouvées, finalement, être leur propre patron, avec un salaire qui n'est pas si dingue que ça. Et en fait, elles sont sorties d'une prison pour rentrer dans une autre. Alors certes, elles savent pour qui elles travaillent. Il y a cette notion de plaisir parce que ça donne du sens, parce qu'elles savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Donc éventuellement, il y a un pourquoi. Mais elles ne vont pas forcément encore être sur une stratégie qui va peut-être vraiment être optimisée par rapport à leur potentiel. Parce qu'elles vont être trop en mode, comme je l'ai été, gentil soldat, bon élève, à appliquer ce que quelqu'un leur a dit qui était la fameuse stratégie qui a marché pour eux, mais qui ne va peut-être pas forcément marcher pour l'élève. Et du coup, qui vont se dénaturer et pas comprendre pourquoi ils ont aucun résultat. Parce que ça ne fonctionne pas, ça ne fit pas, en fait. Et donc, l'idée d'apprendre à bien se connaître et d'être vraiment aligné sur ce qui fonctionne, je pense que ça nous alimente au fur et à mesure du chemin. On prend du plaisir dans le process. Et ça, pour moi, après, je pense qu'à partir de là, bah, c'est déjà gagné, en fait. Parce que même si, au final, on n'a pas le résultat qu'on espérait, on joue finalement à un jeu où on peut être que gagnant. C'est qui on devient sur ce chemin. On grandit forcément. Et même si dans la matière, on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était donnés, au final, on a grandi, on a capitalisé, on est devenu une personne un petit peu plus grande d'une certaine façon, et surtout une identité qui nous inspire davantage sur la personne qu'on aspire à être. Et donc, c'est ça, finalement, qui m'inspire. Après, j'entends complètement le discours que si on pense un business, même si c'est basé sur une passion, mais qu'on a un intérêt de profitabilité, hein, puisque un business, c'est son objectif, c'est qu'il est censé apporter une situation qui apporte, enfin, il apporte de la valeur. Donc c'est une ça apporte une solution qui est rentable à un problème qui existe. On apporte quelque chose. Et en même temps, bah, c'est viable, parce que même quand on est finalement sur des systèmes qui vont être de l'ordre du bénévolat, même si finalement celui qui va utiliser le service ne va pas directement payer, il va y avoir un business model qui va permettre à ce que ça soit viable sur du long terme par des investisseurs, etc. On peut le voir également par exemple avec Google, où finalement nous en tant qu'utilisateurs, on ne va pas directement on ne va pas payer directement le service, mais on va le payer indirectement parce qu'en l'utilisant, on va nourrir l'algorithme et ça va permettre après à des personnes d'investir dans des publicités, etc. Donc il y a forcément un business model en arrière-plan. Et c'est vrai que moi, je connais aujourd'hui des personnes qui ont cette capacité à se dire « Mais aujourd'hui, j'ai même envie d'entreprendre dans un projet qui, je sais, sera une perte. » Parce que c'est pas mon objectif qu'il soit rentable. Mais par contre, mon cœur, il me donne envie d'y aller dans cette direction et ça m'inspire. Et ça, je trouve ça aussi inspirant de se dire Bah ouais, en fait, j'ai envie de ce projet-là et pas forcément avoir toute cette approche business
C'est ça.
model et rentabilité pour pas finalement dénaturer, comme tu le disais, François, et pouvoir nourrir mon âme. Et ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, j'écoutais dernièrement un épisode de la chaîne YouTube de Julien Chase sur justement l'arrivée de tout ce qui est. Comment les jeux vidéo commencent à devenir finalement tous ceux qui sont surtout free to play, où on n'a pas besoin de payer pour jouer, et ils doivent bien trouver un business model. Et je comprends de plus en plus son approche où finalement, on va plus, enfin, si on part dans un extrême dans ce sens-là, on va plus être sur un jeu qui est construit pour faire générer des émotions et une expérience utilisateur de joueur, vivre une aventure. Comme on a pu le vivre, je me souviens, dans notre enfance, là, on va être vraiment sur un jeu vidéo qui va être réfléchi pour capturer finalement le joueur, pour le faire rester, pour le faire consommer. Et on n'est plus du tout dans un game, un jeu qui réfléchit dans une approche expérientielle, comme, je sais pas, un cinéma, mais d'ailleurs, même dans le cinéma, ils arrivent à caler finalement des formes de publicité par les objets qui vont être utilisés. C'est subtil, hein. Mais voilà, enfin, je sais pas pourquoi je fais ce
C'est de
parallèle-là.
l'attention. C'est excellent, je trouve, ce parallèle. Tu touches un parallèle qui est très très bon. Je trouve que là, encore une fois, on voit bien. Hein. Est-ce que tu préfères jouer un jeu, te retrouver en totale immersion et ne pas être embêté par un système qui te demande de faire de l'argent ou. Parce qu'on le voit bien à chaque fois dans un jeu. Alors, ça dépend les jeux, mais il y a certains jeux où tu es bloqué par l'argent. Et donc, du coup, tu es obligé bah, de farmer ton personnage. Donc, d'aller lui faire monter de niveau pour battre
C'est ça.
des monstres et derrière récupérer de la thune, ce qui va te permettre de pouvoir acheter la nouvelle arme pour pouvoir tuer plus vite encore plus de monstres, gagner encore plus de thunes, etc. Et en même temps, ce que tu as envie, toi, potentiellement, c'est être totalement libre dans ton jeu et pas forcément farmer ton personnage.
On revient à l'idée que l'argent est un accélérateur.
Exactement. Et comment tu te positionnes? Tu vois, par exemple, je pense le jeu qui me vient à l'esprit là tout de suite, si je devais parler passion, totale passion, liberté et tu te fais pas chier à farmer quoi que ce soit, Zelda Breath of the Wild. À l'inverse, je te donne le jeu typique où tu dois farmer ton personnage, ça va être plutôt tes personnages là en l'occurrence, c'est Pokémon. Comment tu fonctionnes avec Pokémon, tu vois, genre, moi je suis le genre à monter tes Pokémon dès le début, niveau 20,
Ouais, mais
quand tu vas passer tes premières
tu
ligues.
vois, moi je vais en prendre un autre, c'est GTA par exemple, parce que peut-être Zelda, ça, je sais pas si ça parle à tout le monde. GTA, je pense que tout le monde connaît. Moi, que c'est le genre de jeu fun où en fait je vais m'amuser tout de suite, tu comprends? Tout de suite, je peux voler des voitures, je peux casser des gueules, je peux faire ce que je veux. Ok, mais en vrai, à un moment donné, ça va me saouler. Alors qu'un jeu d'aventure où tu construis, alors moi par exemple, il y a toute la saga des Final Fantasy que j'ai toujours adoré, où tu vas construire, tu pars de niveau 1, la satisfaction que tu retires quand tu es au niveau 99, elle est extraordinaire. Et c'est jamais une émotion que j'ai vécue dans GTA. Donc c'est intéressant de voir dans la vie finalement, est-ce que tu es en mode je construis quelque chose et quand je regarde derrière, le parcours il est extraordinaire et j'ai tellement de plaisir à être rendu là, ou est-ce que tu es en mode je kiffe? Mais je reste sur une certaine horizontalité, tu vois ce que je veux dire?
Alors, pour avoir fait GTA San Andreas quasiment en entier, tu as quand même cet aspect
Ouais, j'ai
d'évolution
quand
si
même
tu
un
fais
peu
les
de temps.
missions. Si tu
Tu
fais
débloques
les
des
missions,
choses.
tu augmentes, tu grandis tes points de vie, tu augmentes ta popularité, tu augmentes ton cash, tu augmentes ton pouvoir en fait sur la ville. Et au final, tu le ressens, même si en effet, tu as bien raison, la majorité du temps, tu peux te perdre dans le jeu. C'est-à-dire que si tu vas sur San Andreas
Sur
juste
des quêtes
pour
annexes, tu fais du
taper,
BMX et
taper.
tout.
Si t'es là juste pour taper des gens, voler des voitures, bah oui, en effet, tu vas pas avancer. Et c'est exactement ce qui peut se passer dans Zelda Breath of the Wild. Hein. Mais je trouve que c'est beaucoup plus poétique. Tu vas juste prendre ton cheval et tu vas voyager à travers les différents paysages et tu vas juste vivre un moment où tu vas dire, oh, putain, cet endroit-là, je l'avais pas visité parce que c'était vraiment sur une carte totalement ouverte. Et tu dis, oh, putain, et ça, et ça, et ça. Et là, tu t'en fous même d'évoluer ton personnage.
C'est un équilibre des deux. Donc là, si on revient
C'est
sur
un équilibre des deux.
l'entrepreneuriat, on revient sur l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui veut grossir sa business, qui met en place beaucoup d'efforts, qui réinvestit tout le temps son cash, etc., il va monter en puissance sur sa business, mais il faut aussi qu'il trouve des moments pour kiffer, en fait, et pour
C'est ça.
apprécier où il est et
Moi, c'est...
Bah, surtout sur le jeu de l'entrepreneuriat, en fait. Parce que là, dans les personnes que je côtoie, des mentors, j'avais pas pris conscience de ça, mais un de mes mentors coach des champions olympiques. Et en fait, eux, si vous voulez, ils sont dans un jeu qui est fini. C'est-à-dire que s'ils visent d'aller chercher la médaille de bronze, d'or ou d'argent, voilà, d'argent, d'or, pour aller dans le sens, eh bien, on le sait, il y a une fin, c'est clair, c'est défini. Un entrepreneur, c'est un jeu qui finalement est infini, en fait. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on a gagné. Est-ce que c'est le premier client, le deuxième client, le millième client? Donc, en fait, ça demande à être très clair sur... Bah, finalement, c'est quoi qu'on va définir comme étant notre succès ou ce qu'on vise. Et souvent, c'est souvent un objectif qui va être retravaillé, réajusté au fur et à mesure que l'être qui est derrière ou les personnes qui sont derrière l'entreprise, elles évoluent en fait. Et souvent, elles évoluent peut-être même des fois plus vite que l'entreprise. Et c'est pour ça que des fois, c'est accepter peut-être de créer une nouvelle entreprise qui va être plus en phase et puis laisser l'autre vivre selon son rythme à elle ou de la faire évoluer. Enfin bref, c'est toute une histoire. Donc,
Les entreprises qui ont réussi comme ça, c'est des gens qui sont tombés amoureux du processus en fait. Aujourd'hui, ils n'ont pas un objectif financier. Ouais. Ça va continuer ad vitam aeternam aussi longtemps qu'ils seront là parce qu'ils sont... fondamentalement passionnés par ce qu'ils font et ça va jamais arrêter, ils ne veulent pas que ça arrête.
Mais voilà,
c'est ça.
Ouais, ils sont amoureux du processus. Et là, je trouve que tu vois, c'est exactement ce que je voulais faire passer avec cette idée que parfois tu peux être dénaturé dans ton business. C'est que là, tu viens de le dire, Christian, tu vas devoir faire évoluer ton business parce que c'est pas toi le client en fait. Le client, il veut quelque chose forcément, peut-être des fois. D'autres. Et toi, si tu crées ton business par rapport à ta passion, bah en fait, tu vas devoir faire quelque chose totalement différent. Je vais reprendre l'exemple, par exemple, avec Julien. Toi, tu es photographe. Je suis convaincu que de faire des putains de photos de mariage, ça doit te péter les couilles.
Alors, ben, ok, on peut en parler. Je voulais qu'on aborde ça dans l'épisode. Je ne savais pas à quel moment. Ok, je vais en parler maintenant, ouais. Non, attends, je voulais dire un truc avant, parce que sinon je vais l'oublier. Avec un ami, on avait eu une idée de court-métrage qu'on n'a jamais fait. Ça tombe dans le sac des millions d'idées qui verront peut-être jamais le jour. Mais on avait imaginé par rapport au processus. Là, je reviens sur le processus et après, on va pouvoir parler de l'art et de la passion qui était le sujet numéro 1. On avait imaginé un gars, tu vois, genre le businessman, on va tomber dans le cliché. Et le gars, en fait, toute sa vie, il travaille. Il travaille pour avoir des résultats. Et ensuite, tu vois, genre, il vit sa vie, il taffe comme un dingue et il se ramène genre dans la chambre, l'antichambre là, avec Saint-Pierre qui débarque, tu vois, genre une salle, on avait imaginé une salle toute blanche. Et là, il y a tous les chiffres qui lui sont donnés. Fait que Saint-Pierre, il arrive et tout, il dit « Bon, alors, on va faire le bilan, on va faire le bilan de votre vie. Donc, vous avez gagné 20 millions dans votre vie. Vous avez passé tant d'heures à regarder la télé, vous avez passé tant d'heures à courir, passer tant d'heures à manger. » Et là, on avait imaginé plein de data, tu vois, genre vraiment. Vous avez vu tant de pays, tu vois, surtout sur des succès qu'on essaie d'atteindre dans la vie. Donc, vous avez vu, je ne sais pas, 30 pays. Vous avez eu 3 voitures ou plus. Vous avez eu toutes les paires de chaussures de tel... Bon, peu importe, vous avez compris.
3 enfants.
3 enfants, machin. Exactement. Et c'est comme toutes les chiffres, tu vois, les cases qu'on veut cocher. OK, donc j'ai une job, ok parfait, j'ai acheté ma maison, ok parfait, j'ai la piscine, ok parfait, j'ai un chien, ok parfait, j'ai une belle voiture, ok parfait, on part l'été skier dans les Alpes, l'été skier dans les Alpes, n'importe quoi, on va l'hiver skier dans les Alpes, changement climatique c'est terrible. Alors, il y a la fin, le mec tu vois il est comme un dingue, tu vois il est fier, il fait pas ouais, exactement, yes, voilà j'ai atteint ça et tout. Donc maintenant c'est quoi? Tu sais genre il atteint sa récompense. Et Saint-Pierre il dit, ah non mais rien, c'est fini, du coup j'espère que vous en avez profité. Et on avait imaginé la fin du court-métrage comme ça. Parce qu'au final, on a tous des objectifs qui nous sont prêtés par les médias, par la société, ce côté très, très matérialiste de vouloir cocher des cases, la to-do list, tu vois. Mais si tu vis ta vie pour cocher des putains de cases, ton bonheur, il ne va pas être à la fin, là, tu comprends ? Il n'y a pas de récompense, il n'y a rien qui t'attend après. Après, c'est fini. Fait que, est-ce que tu en as profité ? Est-ce que tu en as profité ? Donc, tomber en amour avec le processus. Et pour je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz si c'était une bonne idée de ce court-métrage-là.
Je te rejoins à 200%. Enfin, moi, ça me parle énormément. C'est cette notion d'individualisation et c'est être capable de faire du tri entre c'est la différence entre réussir dans sa vie et réussir sa vie, en fait. Et des fois, on parle de ça, ouais, c'est génial, en effet. Et il y en a tellement, en fait, qui tombent dans ce piège. Et ça fait beaucoup partie des personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. Et le pire, c'est qu'en fait, elles pensent qu'elles ont un problème. Parce qu'elles se disent, j'ai tout pour être heureux. J'ai mon chat, j'ai mon chien, j'ai mes enfants. J'ai un travail qui paye bien. Tout le monde m'envie, etc. Sauf qu'en fait, eux, leur âme, elle suffoque. Et elles sont malheureuses. Et elles ont presque de la culpabilité, d'une certaine façon, d'être malheureuses alors qu'elles auraient tout pour être heureux. Oui, mais elles auraient tout pour être heureux sur le papier. Mais c'est pas ça qui fait le bonheur, en effet. Si, au final, c'est plus quelque chose qui répond à de la logique, parce que c'est bien, c'est stratégique, c'est bien parce qu'il y a de l'avenir là-dedans, ou parce que c'est la nouvelle chose qui est à la mode, ou c'est une super opportunité. Oui, mais la vraie question, c'est pas est-ce que c'est une super opportunité, c'est est-ce que toi, cette opportunité-là, elle va te nourrir, elle va répondre à tes besoins profonds, elle va te permettre de grandir aussi en tant que personne, parce que ça, comme je disais, c'est quelque chose que tu auras toujours, peu importe. Avant l'avoir, il y a déjà l'être, finalement, qui grandit dans ce qu'il va réaliser. Donc, je pense que finalement, à la fin, c'est, oui, l'expérience qui va avoir vécu, et puis qui va être, en fait, qui je suis à la fin de ma vie, en fait. Et est-ce que je suis fier de cet homme, de cette femme que je suis devenu ? Parce que ça, qu'on le veuille ou non, toute l'expérience qu'on va vivre va nous transformer d'une certaine façon.
Et ça, c'est exacerbé par les réseaux sociaux, je pense, avec tout le mouvement des influenceurs. Je le vois autour de moi, parce que je suis entouré de photographes, de vidéastes, et je reviendrai sur François, ce que tu voulais dire tout à l'heure. Tu m'avais lancé une perche. Mais j'entends des gens, j'ai des clients au magasin qui arrivent et qui disent, voilà, moi, je pars une chaîne YouTube, j'ai envie d'être influenceur.
T'as rien compris.
Tu veux faire quoi, en fait ? Tu veux influencer le monde. Mais qu'est-ce que t'as à raconter, en fait ? Et aujourd'hui, je constate qu'il y a plein de gens qui veulent faire comme les autres. Tu comprends ? Mais le data, c'est quoi que tu regardes ? Tu vois ce que je veux dire ? Ok, je prends un exemple. Quelqu'un qui est passionné. On en parlait avec une amie. Le gars, il est passionné genre de fromage. Un vieux monsieur français qui s'est parti une chaîne TikTok. Le mec est passionné de fromage. Et il fait des shorts sur où il t'explique tel fromage, c'est telle différence avec tel autre machin. Le gars, il fait ce qu'il aime. Il est sur son X. Le nombre de followers qu'il a, hallucinant. Alors, je n'ai pas le chiffre, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais tu ne t'attendrais pas à ça. Déjà, une personne âgée sur TikTok, peut-être c'est un petit peu moins conventionnel. En plus, le mec, il est ultra niché sur son truc de fromage. Il parle même pas en anglais, je crois, dans ses trucs, c'est en français. Mais il va reach un public international parce qu'il n'y a rien qui est plus allumant qu'un mec qui te parle de sa passion. Parce que d'un coup, c'est comme si toi, on se sent en vie, en fait, quand on entend tu vois, quelqu'un qui est ultra enthousiaste à parler de quelque chose, ça vient te chercher, ça vient monter tes vibrations. Et c'est ça que les gens, ils veulent. Ils veulent vibrer. Donc, quand tu as quelqu'un en face de toi qui vibre, tu vois, par écho, tu vibres aussi un peu, d'une certaine façon. Mais le gars, il ne s'est jamais dit « je veux 1 million de followers sur TikTok ». Il s'est dit « j'aime le fromage, je vais parler du fromage ». Et si ton objectif, c'est de dire « je veux être une star sur TikTok ou une star sur YouTube », mais que tu n'as rien à raconter, déjà, tu vas te faner en chemin, parce qu'en vrai, le processus, c'est ultra long. Tu ne te rendras pas là sans avoir rien à dire, ou tu vas avoir tellement d'épreuves que tu ne te rendras pas. Mais si tu fais ce que tu aimes, et que ce n'est même pas une question, en fait, et là, c'est ce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas vivre de sa passion, mais c'est vivre pour sa passion. Tu es tellement passionné de photos que ce n'est pas une option. Tu comprends ? Tu essayes, tu dis, moi, ça va passer par là, ça va passer par cette case-là. Il n'y aura pas d'autre plan, il n'y a pas de plan B. Mon plan A et mon plan unique, c'est de faire de la photo. Bon, maintenant, il faut que je vive. Ok, parfait. Il faut que j'ai un travail. Et moi, donc là, je vais revenir sur François, la perche que tu m'avais lancée. C'est un peu le processus que j'ai eu. C'est-à-dire que j'étais ingénieur au début. Je m'étais dit, voilà, je veux faire de l'argent et après ça, je pourrais faire ce que je veux. Quand j'aurai de l'argent, quand je serai à la retraite, à la limite. Là, vraiment la vision naïve de la vie. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui tombent dans ce piège. Tu veux bien faire. On te dit, non, mais étudie, man. Étudie, tu vas voir, ça va t'ouvrir plein de portes. Ok, alors j'ai fait mes études. Bon, maintenant, toutes les portes sont ouvertes. Je fais quoi ? Bon, bah, je sais pas, là, tu as eu une opportunité, tu vois, c'est un beau travail, fais-le. Et après, tu verras, tu vois, tu auras de l'argent, tu pourras tout faire. Ok, bon, bah, parfait, je vais faire ce travail-là. Et à un moment donné, j'ai réalisé l'absurdité de ce chemin-là. Et je me suis dit, mais en vrai, dans 20, 30 ans, je vais être au même point, j'aurais pas évolué. C'est quoi le but ? C'est d'espérer de te rendre à la retraite, de plus avoir besoin de travailler, donner tout ton temps et ton énergie à quelqu'un pour enfin faire ce que tu veux. Pourquoi pas le faire tout de suite ? Et là, je vais faire une petite parenthèse avec la petite anecdote, là, tu sais, le pêcheur. J'avais lu ça dans un livre, je trouvais ça trop cool.
Okay. Ouais.
Christian, tu veux la raconter ? Tu racontes bien les histoires comme ça. Ouais. Tu t'en rappelles ?
Ouais, je m'en souviens, enfin, plus vraiment tout à fait, mais en gros, enfin, je vais le dire comme je m'en souviens, mais c'est ça, c'est un pêcheur qui est passionné par son poisson, qui va pêcher tous les matins. Et puis à un moment donné, il tombe sur, il me semble, un Américain qui commence à le questionner. Et puis il le voit galérer un peu, enfin, de son point de vue. Et puis il commence à lui dire, mais tu prends combien de temps à faire tout ça? Puis voilà, il le questionne un peu en mode businessman. Il dit, mais en fait, ça prend beaucoup trop de temps, tu devrais industrialiser, tu devrais embaucher, puis du coup, après, ça te permettrait de rentabiliser, tu pourrais dupliquer un peu en mode, comment c'est, les entreprises comme McDonald's, la franchise, tu fais des franchises, puis tu développes ça, tu amènes ça à d'autres endroits. Et... Bref, et il lui fait tout un business model comme ça, qui projette un peu sur la comète, et en mode, ça te rapporterait des millions, et comme ça, tu pourrais faire ce que t'aimes et enfin profiter à la fin. Donc on revient sur finalement la destination plus que le voyage. Et finalement à la fin, il lui demande de l'avis au pêcheur et le pêcheur il lui dit bah, en fait tout ce que tu me dis que j'aurai à l'arrivée, je le vis déjà aujourd'hui en fait. Donc pourquoi je vais me prendre la tête à faire tout ça? Parce que
Ouais, parce que son temps libre, il l'occuperait en pêchant.
voilà, c'est ça, il l'occupera en
Fait qu'en bout de ligne, il
il
le
le
fait
fait
déjà.
déjà. Puis
Exactement.
en plus, c'est qu'il fait ça, je crois, le matin, puis l'après-midi, il profite aussi.
Il est
Il
avec
est
sa
avec sa
femme.
femme, il est avec ses enfants, donc. C'est quelque chose qu'il a déjà, il a déjà cet
Il kiffe sa
équilibre dans
vie.
sa
Ouais.
vie aujourd'hui en fait. Et c'est juste faire ça sans forcément l'amplifier, le dupliquer, le faire encore plus, le scaler, etc. Pas forcément en fait. Il a trouvé son rythme à lui qui est juste pour lui en fait.
Et ça, je
Et
pense
ça,
que c'est
tu...
même. Ça, je pense
Vas-y,
même
vas-y.
que c'est un autre sujet de podcast, mais c'est une vraie question qui est autre que la passion, etc. C'est à quel niveau je veux faire du business? Vous voyez? À quel niveau, en fait, je veux que mon business impacte? Et en fait, bah, si je suis bien un petit pêcheur, je suis OK, tu vois. Si ça me permet d'en vivre et que ça me plaît, bah, c'est OK. Moi, par exemple, la musique, je me suis mis des objectifs, mais c'est pas des objectifs de
À quel
sortir un
niveau tu veux en
album.
faire, quoi,
Voilà, c'est à
exactement.
quel niveau, tu vois? Genre,
Tu veux
si moi,
juste
je vais
kiffer.
dans, si je vais dans un bar et puis que je fais une musique, je fais une soirée musicale, bah, je suis content, quoi. Je suis content.
Parce que tu es sur ce que tu aimes, de toute façon.
Ouais, voilà.
Donc, j'aime bien qu'on tease tout le temps les prochains épisodes, c'est bien, à chaque fois. Une réalisation que j'avais eue, en fait, à un moment donné, j'étais en Alberta. C'est ça, avec une amie, voilà, on voyageait tous les deux à ce moment-là. Et elle me disait, elle voulait aller, alors non, c'est pas, elle voulait aller à Whistler, en Colombie-Britannique. Puis elle disait, moi, genre, j'en ai rien à foutre de laver des chiottes à Whistler si à la fin de ma journée, je suis à Whistler, tu comprends? Donc, elle était allée travailler dans des hôtels où elle faisait des jobs, voilà, ingrates. Pas dire ça parce que ça a l'air que je manque de respect de ces professions alors que pas du tout. Et puis je l'ai fait en passant. J'ai ramassé du vomi dans les baignoires, tu vois. J'ai déjà fait ça. Mais c'est, on va dire que c'est pas, voilà, quand tu es à l'école, tu te dis pas, hey, je rêve tellement de faire cet emploi-là. Tu comprends? À la limite, c'est plutôt un emploi, des fois pour des gens qui n'ont pas d'études ou qui ont, tu vois, qui c'est un premier taf. Tu peux toujours trouver de l'emploi là-dedans, ou presque. Pour dire qu'au final, pense-y. Tu as des gens qui vont travailler. Dans le quartier des affaires à Paris, voyons, comment ça s'appelle?
À la Défense.
La Défense, merci. Donc, tu as des gars qui travaillent à la Défense, des traders, des ingénieurs, etc., qui vont travailler très fort. Puis après ça, ils vont avoir leurs 2, 3, 4 semaines de vacances par an. Ils vont payer une fortune en billets d'avion, en hôtel, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils vont partir pendant la période la plus achalandée de l'année, tu comprends? Et ils vont vivre l'expérience comme des touristes parce que leur rêve, c'est d'aller faire du ski à Whistler. Ou alors, t'as l'option d'aller laver des chiottes à Whistler. Et chaque jour, quand t'as fini ton shift, t'es dans ton rêve. Tu comprends? Tu vis pas ta vie pour te payer ton rêve 3 semaines par année. Tu décides d'être dans ton rêve toute l'année. Et à côté, ce que tu fais, et voilà, c'est pas, t'es pas trader, t'es pas machin, t'es pas, mais on s'en fout.
Et tu sais que c'est super intéressant parce que, alors là, du coup, tu prends encore un pied différent parce que tu montres que, bah, en fait, tu peux vivre ton rêve en faisant des tâches qui ne sont pas intéressantes. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre aussi. Et ça, c'est aussi un point qui, moi, me posait problème et que je disais là, et que je vais te retendre la perche avec l'histoire de la photographie de mariage, mais en fait, dans un business, tu as tellement de choses à faire qu'il y aura forcément quelque chose. Si tu es auto-entrepreneur, hein, même si tu entreprends et que tu as plein de collaborateurs, mais tu as tellement de tâches à faire dans un business pour qu'il tourne. C'est toi le patron, c'est toi qui prends les risques, c'est toi qui es là, qui doit décider et qui doit faire en sorte que ça tourne et que ça génère de l'argent. Alors au début, ça peut, quand je dis, voilà, si c'est la passion qui t'amène avec ce business et bah c'est super cool parce qu'au début ça te nourrit et puis tu te dis c'est trop bien, mais après tu dois adapter, tu dois faire en sorte que tes produits continuent à vendre, tu dois faire en sorte que tout se passe bien. Ben, en fait, il y aura forcément des putains de tâches que tu voudras pas faire. Il y aura des tâches qui vont te faire chier. Et ça, il faut l'entendre. Entreprendre, ça peut être vraiment relou sur certains points. Et je pense que ceux qui sont passionnés par l'entrepreneuriat et qui sont serial entrepreneurs, mais c'est qui kiffent en fait chaque aspect.
Ça, c'est sûr.
Chaque aspect de ça. Et eux, et ça, c'est ça leur passion à eux. Ils adorent ça.
Des fois, c'est plus ils la adorent... forme que le fond.
Ouais, ils adorent. Tu vois ce que tu disais avec ton court-métrage. En fait, ils adorent faire le checklist.
Ouais.
Ça leur donne une dose de dopamine, comme quand tu feeds ton compte Insta, quand tu suis ton compte Insta, bah c'est pareil, ça te donne de la dopamine, bah c'est pareil. Ils ont checké, ils ont fait leur petit truc et c'est ça qui les passionne. C'est de passer de 1 à X.
On revient sur cette notion de processus. Et c'est pour ça que même des fois, moi, j'ai des personnes dans mon entourage, ils aiment faire de l'argent. Mais c'est pas l'argent en eux-mêmes qu'ils cherchent, c'est le processus de générer de l'argent.
Non.
Ou de générer une entreprise, de permettre de créer de l'emploi. Ou, voilà. Mais il va y avoir un pourquoi quand même derrière qui est toujours intéressant à aller chercher.
Oui, forcément.
Parce que c'est ça qui fait que du coup, ils investissent autant. Et je rejoins complètement ce que tu partages sur cette notion de... Il y en a encore beaucoup qui fantasment là-dessus, et moi le premier, et ça a été un peu une grosse déception de croire ça. Enfin, si on croit à un fantasme, au bout d'un moment, ça finit par devenir une déception. C'est de penser qu'à un moment donné, si j'étais vraiment sur mon X, et que je faisais que je trouvais enfin le job de ma life, ça allait être génial, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'allais faire que des choses qui me plaisent et qui m'épanouissent. Et voilà, et non. T'as tout à fait raison, il y aura toujours avantages et inconvénients, et sur typiquement le monde de l'entrepreneuriat, ça demande un éventail tellement large de casquettes qu'aujourd'hui je prends conscience que tu peux quand même minimiser les tâches qui t'inspirent le moins et maximiser les tâches qui t'inspirent le plus grâce au fait d'embaucher. Et attention, pas d'être dans « je me débarrasse d'une tâche » en mode « je ne veux pas l'avoir ». Parce qu'on ne va pas être vraiment bon manager si on ne l'a pas déjà vécu soi-même, on n'a pas pris conscience de ce que ça vaut, de ce que c'est pour pouvoir vraiment coacher une personne, la manager, lui donner les bonnes directions. Mais à partir de là, en effet, on peut commencer à... Mais il y aura quand même toujours peut-être quelque chose qui va nous challenger.
Mais voilà, moi je te le dis, actuellement, je manage quoi entre 50 et 70 personnes. Alors oui, je ne les vois pas tous individuellement, on est bien d'accord, mais je manage une dizaine de personnes qui managent eux-mêmes un groupe de personnes. Ça te rajoute même de la complexité dans ton business. Et ce n'est pas forcément ce que tu veux faire. Tu vas faire des tâches administratives, tu ne seras plus dans ta créativité. Donc après, il faut embaucher quelqu'un qui va manager les autres pour toi. Et bref, c'est ce que je veux dire par là. Juste, je résume ma pensée, c'est de dire que ça, il va falloir l'accepter, en fait. Et si tu l'acceptes, si tu acceptes ça, si tu acceptes le fait que tu vas faire des tâches ingrates, comme tu le disais, Julien, tu l'as imagé avec ta pote, là, sur ce que tu disais, moi, je suis d'accord. Au final, ça n'empêche que tu peux vivre ton rêve. Tu peux vivre ton rêve d'être au bon endroit, de t'amuser et t'éclater. Mais pour ça, il faut l'avoir accepté. Il faut l'avoir compris, il faut l'avoir... conscientiser, faut avoir mis en place les actions.
Moi, tu vois, la réalisation que j'avais eue, c'était donc j'ai Après mes études, j'ai décidé de partir au Canada. Je pense que j'ai commencé à en parler dans les épisodes. Et j'ai décidé de voyager à travers l'Amérique du Nord. Donc, j'ai traversé le Canada, j'ai traversé les États-Unis. Et à ce moment-là, je faisais du couchsurfing. Donc, je dormais chez les gens et je voyageais en pouce. Et quand je suis revenu, après un an et demi, après avoir visité tout ce bout de pays, j'ai des amis qui étaient restés dans leur travail. Et pour eux, en fait, la notion de voyage, de Canada, tu vois, qui peut être très attirant. Il y a beaucoup de Français qui rêvent d'aller au Canada. On le voit à Montréal, ça explose. Il y a énormément de gens qui viennent, qui immigrent ici. Il y a quelque chose qui nous fascine dans les grands espaces. Et dans le fond, pour eux, leur vision du truc, c'est que j'avais été en vacances, tu vois, pendant un an et demi. Et ils me disaient, mais t'es blindé, en fait. Comment t'as fait pour vivre, tu vois? T'es blindé. Pendant un an et demi, t'as pas eu besoin de travailler. Alors, j'avais un peu travaillé, j'avais fait des petits travails à droite, à gauche. Mais en fait, c'était au fil de mon voyage. Ça veut dire qu'à un moment donné, je voyais quelque chose qui m'intéressait, un endroit que je voulais découvrir un peu plus en profondeur. Je me trouvais un petit taf et j'ai tout fait. J'ai travaillé dans une scierie, j'ai travaillé dans un hôtel de glace, je cassais la neige avec un polonais le soir. J'ai travaillé dans des hôtels, comme je disais, j'ai lavé du vomi, c'était des ouvriers qui travaillaient là, c'est des trucs... Mais en fait, en bout de ligne, j'ai fait les calculs, parce que je me disais, ça serait intéressant de voir. Eh bien, et là, vous allez peut-être halluciner, là, mais j'ai économisé de l'argent à voyager pendant un an et demi. Parce que j'ai fait le calcul. Si j'étais resté à Lyon, j'aurais fait quoi? J'aurais travaillé, j'aurais eu un loyer à payer. Okay, j'aurais eu des charges, j'aurais eu une voiture que je n'avais pas, là je faisais du pouce. Donc au final, quand tu fais la projection de ce que ça m'aurait coûté de vivre dans la ville et de travailler, de toutes les dépenses, de tout ce qui incombe à ce choix-là de vie, versus ce que j'avais fait, alors qui est intense, tu ne fais peut-être pas ça toute ta vie, on s'entend, du pouce, j'ai eu la chance, j'ai eu des gens extrêmement généreux qui m'ont accueilli chez eux pendant un an, j'ai dormi chez plus de 200 à 300 personnes. Mais en bout de ligne, l'équation, elle est simple. J'ai gagné de l'argent, ou du moins, j'en ai pas dépensé, donc j'ai sauvé de l'argent, on va le dire comme ça, pour voyager et être dans le rêve. Puisque j'ai fait quelque chose qui, voilà, certaines personnes, c'est un projet de retraite, de traverser les États-Unis. Moi, je voulais pas attendre la retraite. J'aime bien le concept de mini-retraite, en fait. À un moment donné, tu t'arrêtes et tu fais ton truc. Donc moi, j'ai dit, bah, pourquoi pas commencer par ma retraite. Je suis jeune, alors j'ai pas d'argent, mais on va trouver des solutions et j'ai envie de le faire. Donc, je ne vais pas attendre 40 ans. Et je suis tellement content d'avoir fait ce choix-là parce qu'ensuite, ça m'a vraiment amené à repenser la profession de façon différente. C'est-à-dire que finalement, pour moi, un job aujourd'hui, c'est comment tu occupes ton temps. Exactement. Donc là, aujourd'hui, et alors là, je vais sur la photo. La photo avait pris de plus en plus de place. Donc, je savais que je ne retournerais pas à un job d'ingénieur, bureau d'études et tout. Donc, je m'étais dit, OK, j'aime la photo. Et alors, comment je fais pour en faire le plus possible, tu comprends? Donc, être photographe, c'est un job, c'est un business en soi. Comme tu dis, la photographie de mariage, effectivement, j'en ai fait. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi, dans la photographie de mariage, mais on va dire de façon plus générale, pour ne pas cibler que le mariage, la photographie commerciale, c'est-à-dire la photographie où tu vas travailler pour un client. C'est sûr et c'est certain, à moins que tu sois vraiment... que tu te sois développé un nom avec une image, et je pense qu'en fait, ce serait ça la bonne démarche. Mais si tu fais des images pour tes clients, tu ne fais plus des images pour toi. Donc, ce n'est pas forcément des images qui te passionnent en tant que tel.
C'est ça.
Le but ultime de tous les photographes, c'est de faire ce qu'ils aiment, et ils sont tellement reconnus dans ça qu'on les paye pour faire ce qu'ils aiment. Et j'en connais quelques-uns. Je pense que ça peut arriver si sincèrement, tu es sur ton X et que tu produis du contenu d'ultra qualité parce que c'est ta passion et tu veux faire que ça. Et finalement, on en revient au début de la discussion, mais quand tu fais ce que tu es passionné par, ma phrase est un peu bizarre, quand tu fais ce que tu es passionné, ce pourquoi tu es passionné, tu vas être bon, tu comprends? Tu vas être bon parce que tu ne vas pas compter le temps que tu vas mettre là-dessus. Tu vas passer tout ton temps là-dessus, tu demandes que ça. Donc c'est certain que tu vas être bien meilleur que quelqu'un qui dira « je vais faire ça parce qu'il y a de l'argent à faire là-dedans », tu comprends? Il ne va jamais arriver à ton niveau de vibration. Donc tu vas devenir le meilleur dans ta niche. Et si tu deviens le meilleur, eh ben, s'il y a un besoin commercial, et on revient peut-être à la notion de valeur, l'argent se crée quand tu réponds à une demande.
Un besoin.
Tu réponds à un besoin. Donc, tu crées de la valeur sur un besoin. S'il y a un business dans ce marché-là, il y a une demande et que l'offre, ou il n'y en a pas beaucoup, ou ton offre à toi, elle est tellement exceptionnelle que ça va aller vers toi, ben, tu peux faire de l'argent. Et tu peux vivre de ton truc. Et donc aujourd'hui, voilà, je travaille dans un magasin d'appareils photo parce que mon analyse, elle était la suivante. En fait, il faut que j'occupe mes journées, ok? Là, j'ai décidé d'habiter à Montréal, donc j'ai des charges, j'ai un loyer, etc. En vrai, j'adore la photo. Puis j'adore parler de photos. Bah, tu sais quoi? C'est ce que je fais tous les jours. Je suis payé pour parler avec des gens de photos. C'est ça, mon taf. J'ai des gens qui rentrent, qui sont passionnés, qui partent en voyage, qui disent « Ah, moi, j'adore la photo, j'adore la vidéo. Ça me prendrait quoi comme caméra ?» Ben, on va parler photo ensemble. Et je suis bien payé pour ça. Tu le vois de même, tu comprends? Je ne suis pas commis vendeur dans un magasin d'appareils photo. Je suis payé pour parler photo.
Ce que j'aime dans ce que tu dis, en fait, c'est que tu dis « think out the box ». Et c'est ce que je disais au tout début, en fait. C'était mon premier point que je disais, voilà. C'est pas parce que t'es salarié que peut-être parce qu'on pourrait se dire on fait un podcast, techniquement c'est pour plutôt aider les gens à sortir peut-être du salariat d'une certaine manière, mais c'est pas parce que t'es salarié qu'actuellement t'as pas entrepris quelque chose, que t'as pas tourné en fait ta vie dans d'une certaine manière de l'entrepreneuriat. Je suis convaincu que Julien, toi tu es salarié actuellement, moi je suis salarié actuellement, je ne le vis pas comme du salariat et je ne pense pas que tu le vis comme du salariat. Et j'aime cette idée aussi, tu vois, que tu te dises, en fait, ouais, vraiment, tu penses en dehors. C'est-à-dire, la majorité des gens, ils se diraient, ouais, mais je pourrais jamais vivre de ma photo. Mais c'est ce que tu fais, Julien.
Absolument. Tu vis de ta photo. Alors, je fais pas de la photo, peut-être, au sens que tu peux l'imaginer. Mais je fais de la photo tous les jours. Non, et je fais ça aussi. C'est-à-dire, tu vois, moi, je dis, des fois, en rigolant, je dis, je suis un YouTuber. Alors, vous pouvez chercher ma chaîne, elle n'existe pas encore. Mais je passe toutes mes journées sur YouTube, tu comprends? Parce que je regarde du contenu en ce moment sur le son et tout. Donc, je suis un YouTuber. Si je fais du YouTube, je suis un YouTuber. Si je fais de la photo tous les jours, je suis un photographe. Tu comprends? Quelqu'un qui dit, moi, j'adore les... Bruno, on va parler de Bruno, vous le connaissez, c'est un très bon ami à moi. Mm-hmm. Bruno, on te salue si tu nous écoutes. Bruno, il adore écrire. Il a fait un roman que vous pouvez acheter d'ailleurs sur Amazon. Voilà, il s'est auto-publié. Est-ce qu'il vit de sa vie de l'écriture? Non. Mais est-ce qu'il écrit tous les jours parce que c'est ce qu'il aime faire? Oui. Alors pour moi, Bruno, c'est un écrivain. Tu comprends? Et on dirait que ça passe toujours par il y a une espèce de légitimité qu'on va chercher dans la profession. Le mec, c'est un médecin, c'est un avocat. Donc si tu veux être écrivain, il faut que tu aies vendu des best-sellers. Mais ça, c'est, pour moi, c'est une mauvaise pensée. Parce que la légitimité, ça veut dire chercher la valeur de ce que tu fais dans le regard des autres. On s'en fout des autres. On s'en fout des autres. Dans ce que moi je fais, dans mon propre regard sur ce que je fais, je suis habité, je suis, tu vois, je suis sur mon X, donc je suis ce que je fais. Et alors là, dans le être, avoir, faire, bon, on est sur le faire, là, tu vois. Je fais de la photo tous les jours, elles ne sont pas payantes, ça ne me rapporte rien, mais je fais de la photo et je parle photo, et voilà.
Tu es dans cette identité-là, en fait, qui t'inspire et tu n'attends pas d'être après avoir obtenu un certain nombre de résultats et d'avoir eu l'aval, en fait, tu décides de l'être là maintenant, tout de suite, avant qu'il n'y ait aucun résultat, juste parce que être dans cette parce qu'avant de, enfin, une action, on la vit déjà, on la goûte, elle a du goût, elle a quelque chose, elle a une saveur. Et quand je dis une action, ça peut être aussi une action intellectuelle, c'est-à-dire une réflexion, et on a toute une effervescence, une gymnastique intellectuelle quand on va être, par exemple, dans un processus de créativité. Donc, c'est pas forcément physique, ça va dépendre des types d'intelligence, et ça peut être un mélange de tout ça. Mais en effet, on va déjà avoir une première expérience. Et ça, en fait, c'est le plus important. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qu'on va voir d'une certaine façon dans la lumière, bah en fait, c'est des personnes qui, en amont, étaient déjà, à moins qu'elles aient eu un coup de chance et qu'elles aient été catapultées, bah, mais bon, j'y crois pas trop. En fait, il y a souvent, derrière, beaucoup d'heures en coulisses, beaucoup, et pas forcément, encore une fois, enfin, et là, pour le coup, ça serait triste que la personne ait fait ça avec acharnement, sans savourer, parce que, pour le coup, elle peut peut-être y laisser des plumes, mais si elle l'a fait, en fait, en mode, je prends du plaisir, je m'amuse, je profite, etc. Ben, en effet, à un moment donné, ça finit par se voir, en fait. Et finalement, je pense que c'est une conséquence qui est beaucoup plus logique et beaucoup plus écologique aussi. Après, ça peut être intéressant aussi de se fixer des objectifs et ça peut être bien aussi. Hein. Mais ouais, moi, je trouve que ça, c'est de trouver cet équilibre, en fait. Après, si on parle business, c'est trouver cet équilibre, en fait, entre moi, soit bien se connaître, son potentiel, ses talents, et puis les besoins du monde. Et voir comment les deux peuvent matcher. Parce que après, je pense que si on est que centré sur soi et sur son plaisir personnel, après en termes de contribution et qu'est-ce que ça peut apporter, peut-être que voilà, ce qu'on crée et qui nous nourrit peut peut-être apporter de la valeur et on ne l'a pas forcément identifié et ce serait dommage, même sans forcément qu'il y ait rétribution financière. Ça peut peut-être nourrir quelqu'un, un groupe de personnes ou quoi que ce soit. Et ça peut être intéressant de se dire, ben voilà, j'ai apporté ma part, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et si, à l'inverse, on n'est que centré sur l'extérieur, mais qu'on s'oublie, ben au final, on va peut-être accomplir des choses extraordinaires, mais au final, qui ne nous auront pas vraiment nourri, nous. Elles auront été logiques, elles auraient été peut-être pertinentes, ça aura peut-être apporté de la valeur. Mais est-ce que nous, vraiment, au fond, on aura retiré quelque chose, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment cette double équation, enfin cette équation en fait.
Ouais, je suis d'accord, et je pense que ça, il faut le comprendre. Tout ce qu'on dit ici, c'est une nuance en fait. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est une nuance de gris. Et je pense que c'est, tu vois, moi je nuance ce que je dis. Peut-être que à l'inverse, quand tu es sur ta passion potentiellement et que tu as un business que tu as créé sans le vouloir, peut-être même potentiellement, encore une fois. Et que là, tu dois amener à créer des nouveaux produits, à créer une nouvelle, à répondre finalement à un nouveau besoin de tes clients. Potentiellement, en fait, cette contrainte de créativité peut aussi t'apporter quelque chose de super positif. Ça peut être très intéressant. La contrainte, parfois, amène d'autant plus la créativité et tu peux en prendre énormément de plaisir parce que tu vas apprendre aussi de nouvelles choses, tu vas sortir de ta zone de confort. Enfin, j'aime pas trop dire ce terme-là, plutôt élargir ta zone de confort. Donc, moi, je suis d'avis à dire que plus tu pourras en tout cas aller vers là où tu vibres, mieux ce sera, d'accord ? C'est-à-dire qu'il faut pas, si je reviens au tout début de la conversation, c'était en fait finalement, je vais faire un taf pour gagner de l'argent, pour avoir finalement un gros capital qui permettra.
On va faire le wrap-up de l'épisode.
Ouais, exactement. Vas-y. Donc, du coup, je vais récupérer une somme suffisante qui va me permettre d'avoir un actif, enfin un revenu passif qui va fonctionner tout seul. Et du coup, après, je vais pouvoir vivre. Non, on n'est pas là-dedans. Hein. On est bien d'accord que ça, ce n'est pas pour moi la bonne solution. On est bien OK. L'idée, ça va être de profiter du chemin et donc du coup de mettre en place un système où on est heureux dans ce qu'on fait. Potentiellement, on n'est pas totalement dans sa passion parce qu'au début, voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler où il veut. Mais il faut trouver un plaisir dans ce qu'on met en place, dans les actions qu'on a décidé de faire, et finalement faire en sorte que autour de nous, ben tout ce qu'on en ressort du métier qu'on fait ou des actions qu'on a mis en place, hein, un autre entrepreneur par exemple, je sais pas, un youtubeur, quelqu'un qui commence à mettre en place peut-être sa passion, bah, comment finalement à travers tout ça nourrir vraiment son être, son âme, et là après potentiellement quand on a commencé à construire quelque chose de solide avec des bonnes bases, quelque chose qui nous permet de voir les choses sereinement, là, oui, je pense que l'investissement, c'est super intéressant. Là, je pense que l'investissement, c'est intéressant parce que là, on va pouvoir, du coup, mettre en place un vrai système. En fait, on a tendance à vouloir... Ouais, je vais prendre ce point-là. Je pense qu'il est super important. On a tendance à penser que la vie, c'est comme à l'école. Et ça, c'est un vrai souci. À l'école, on nous apprend à résoudre des problèmes simples parce qu'ils ont des solutions simples. Alors que dans la vie, tous les problèmes qu'on va avoir, majoritairement à résoudre, c'est des problèmes compliqués et où il n'y a pas une solution, il y a des multitudes de solutions, parfois simples et parfois très compliquées. Et même, peut-être la solution la plus simple n'est pas forcément la plus évidente, puisque simplicité ne veut pas dire forcément facile. Je pense que là, ce qu'on essaye de faire, enfin moi en tout cas, ce que j'essaye de donner ici, c'est qu'en fait, c'est comme un mécanisme avec plein d'engrenages. Et faire en sorte que tout le système fonctionne, que l'horlogerie fonctionne, bah c'est délicat. Il va falloir choisir la bonne taille de l'engrenage ici, à gauche, à droite, en haut, en bas, pour faire en sorte que finalement les aiguilles tournent. Ça, c'est tout un travail qui se fait sur le long terme. Et donc, il y a plein de petits puzzles en fait à travailler. Il y a le puzzle bah oui, de comment je gagne finalement ma vie. Qu'est-ce qui me nourrit? Quelle est ma passion? Comment je peux gagner différentes sources de revenus pour agrémenter tout ça? C'est toutes ces choses-là qui vont permettre, au final, à mon humble avis, encore une fois, de pouvoir vivre pour sa passion.
Ouais. Mais j'aime beaucoup le résumé que tu as fait, François. C'est ultra intéressant ce que tu as dit. La différence qu'on fait des fois entre la simplicité, la facilité, la complexité, la difficulté, et que la façon dont on raisonne aujourd'hui, la façon dont on commence notre vie est fortement influencée par l'école. D'ailleurs, on va le teaser ici aussi, mais c'est un projet qu'on a ensemble. On vous en reparlera plus tard dans les épisodes de podcast. Là, ce serait peut-être prématuré, mais c'est un projet qu'on a de repenser l'école d'une certaine façon, parce que je pense qu'il y a un espèce de modèle mental qui se fait à ce moment-là qui n'est pas au service d'une vie plus heureuse. Et l'investissement, si on revient sur le début de l'épisode, pour moi, c'est un outil d'ajustement, en fait. C'est un outil qui va nous permettre de s'enligner encore plus sur ce qui nous rend heureux. Mais ce serait une erreur de penser que c'est une étape qui est absolument nécessaire ou que ça va prendre du temps avant d'être heureux. Alors, je sais que la réalité n'est pas la même pour tout le monde. Ça dépend où tu nais, dans quel pays. On le sait, et c'est toujours quelque chose qui me... Je peux tellement avoir de la gratitude infinie d'avoir eu la chance de choisir. Et on n'est pas né dans l'opulence, mais oui, en fait, d'une certaine façon, parce qu'on est né en France, dans un pays où il y a beaucoup de liberté, on peut s'exprimer, on peut faire presque tout. Je veux dire, les opportunités professionnelles. Dans le monde occidental, on n'a pas eu d'avantage, tu comprends? Mais par rapport au monde dans sa globalité, oui, on a la chance d'être occidentaux, tu vois, on va le dire comme ça. Mais pour ceux qui ont ce minimum de choix-là qu'ils peuvent prendre dans leur vie, tu peux décider dès maintenant de choisir une vie qui te ressemble et qui t'alimente. Comme je vous ai parlé, je suis commis vendeur, je veux dire, c'est un job de base. Travailler dans la vente, tout le monde peut le faire, même sans diplôme. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, parce qu'à un moment donné, je me disais, et là je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, François, le côté de l'équilibre entre finalement ce qu'on fait pour nous et ce qu'on fait pour les autres. Et moi, je cherchais toujours un sens à ce que je faisais. Et je me disais, oui, mais est-ce que c'est pas un peu égoïste, tu vois? Je pense juste à moi, à ma petite personne, mais le monde. Et alors cette citation-là, elle m'a fait tellement de bien et j'ai envie de vous la partager. Je sais plus qui l'a dit, mais ça dit ça. Ça dit, ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour le monde. Demandez-vous ce qui vous fait vibrer et faites-le. Parce que ce que le monde a besoin, c'est de gens qui vibrent. C'est extraordinaire, cette citation-là, parce que tout est là. Regarde ce qui te fait vibrer. Si c'est jouer aux jeux vidéo, parfait. Si c'est lire, parfait. Si c'est marcher, marche. Si c'est... parler avec les personnes âgées parce que tu t'es fasciné par les histoires qu'ils te racontent, si c'est les mathématiques, si c'est la photo, si c'est le vélo, j'essaie d'imaginer tout ce qui peut se présenter à nous, si c'est les fleurs, peu importe, tu dois pouvoir trouver un moyen de rentrer dans ta passion, en fait. Et ça ne sera peut-être pas exactement ce que tu avais imaginé, mais tu peux être là, à 80%, tu comprends? Et ensuite, avec le temps, avec les investissements, en grandissant, etc., je pense que tu peux complètement fusionner avec cette vision idéale que tu as de la vie.
C'est une très bonne conclusion, Julien, ce que tu dis là. Le côté que, finalement, l'investissement, c'est un outil pour aller plus loin, pour améliorer l'existant. Et c'est l'objectif de l'argent. C'est un multiplicateur, comme dirait Christian. Je pense que c'est ce que tu dirais.
Oui, pour moi, l'argent, c'est un multiplicateur. C'est quelque chose qui permet de faire grandir les choses. C'est-à-dire que si j'ai une petite maison, bah, j'aurai une maison plus grande. Si j'ai une petite télé, j'aurai une plus grande télé. Après, ça peut être aussi un accélérateur de temps. Parce que du coup, là où je vais mettre du temps quand j'ai pas d'argent, bah là, avec de l'argent, je peux gagner du temps. Les deux sont extrêmement liés. Mais après, voilà, si je n'ai pas, comme tu... Je crois que c'est Julien qui tu disais ça au début, ou François, je ne sais plus. Ça ne permet de faire évoluer que ce qu'on a, en fait. Donc, si on ne l'a pas, l'argent ne va pas le créer. Donc, ça, c'est important de le considérer. Et souvent, on peut avoir des fois des croyances de penser que... que l'argent va nous transformer ou nous faire devenir un tel ou un tel. En fait, elle va nous permettre d'être encore plus ce qu'on est, en fait. Donc, si on est généreux, potentiellement, on va être encore plus généreux si on veut impacter le monde. Moi, aujourd'hui, je le vois aussi comme ça. C'est une opportunité de, si on a un message, de le diffuser plus largement, d'avoir plus d'impact. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée-là.
Et puis si je rajoute un petit côté pour apprendre à nous connaître. Moi, ce qui me fait rire, en fait, ce que tu dis là, Julien, c'est que c'est finalement quelque chose qu'on aurait pu comprendre tout petit, parce que nous, on aime beaucoup regarder des films. Et en fait, la conclusion que tu as donnée, elle est dans un film. Je ne sais plus si vous l'avez, mais c'est dans Sister Act 2.
Ah, ouais. Classique du cinéma, ça.
Classique du cinéma pour nous, en tout cas, pour les Catella. Et vous apprenez un peu à nous connaître comme ça. Hein. On aime beaucoup se faire des tirades de films, ouais. Des citations de films. Et je pense que c'est commun avec beaucoup de familles. Chaque famille a ses films cultes. Sister Act 2 en fait partie pour nous. Et il y a un moment donné où elle dit ça. Elle dit, mais en fait, si le matin, t'as envie d'écrire, c'est que t'es une écrivaine.
C'est que t'es écrivain.
Si le matin, t'as envie de faire de la poésie, c'est que t'es poète. Et si le matin, t'as envie de te lever et que t'as envie de chanter, c'est que t'es une chanteuse. Et ouais. Voilà, moi, c'est là. Je pense que tout est là, en fait. Tout est là.
Et il n'y a pas besoin, tu vois, j'avais pas besoin d'un bac plus 5 pour faire ce que je fais aujourd'hui, tu vois, et je pense que c'est ça. Peu importe, je suis pas en train de... Les études sont un outil, là encore. Si tu dois étudier, étudie, mais en sachant où tu vas. Étudie pas parce qu'on t'a dit que c'était bien d'étudier. Tu comprends ? On dirait qu'on veut toujours, on saute l'étape la plus essentielle,
la plus importante.
Qui est celle du début. Je m'enligne où, en fait ?
Pourquoi j'étudie ? J'étudie parce que je veux, en fait, une tête bien pensante. Une tête bien faite, qui me donne du bon sens, qui me permet de comprendre, qui comprend quand il y a du risque, quand il n'y a pas de risque, qui comprend ce qu'est un projet, ce que je veux faire, mes objectifs. C'est tout ça. Les études, c'est ça que ça permet, de faire la différence entre finalement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous.
Ouais, donc la passion. On en revient à la passion. Alors, je pense qu'on a répondu à la question qu'on s'était posée au début et on va clôturer l'épisode. On a largement dépassé. C'est pas grave. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui nous écoutent encore. Vous nous direz d'ailleurs en commentaire si vous appréciez plutôt un format long de podcast où on a vraiment le temps d'explorer, d'aller dans les thématiques vraiment de façon plus précise, ou si vous préférez une formule un peu plus courte et bien sûr, on s'ajustera en fonction... de ce que le peuple décidera. On est un système démocratique ici. Alors, investir, c'est bien, mais pourquoi faire ? Donc, je pense qu'on a résumé. En fait, tout part par la passion. Tout part par le cœur. On l'a dit la dernière fois, on va le répéter. Et à chaque épisode, si c'est nécessaire, Christian, tu nous l'avais très bien dit la dernière fois, le cœur, c'est lui qui doit donner la direction, n'est-ce pas ? Et l'esprit et tout le reste, toute la logique, toute le rationnel, finalement, doit trouver la solution et rendre possible ce que le cœur a décidé. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Demandez-vous ce qui vous fait vibrer et faites-le. Et l'investissement sera un outil que vous allez rajouter, une corde à votre arc, qui vous permettra de plus vous exprimer encore dans votre passion, parce que ça va être un accélérateur de temps, de moyens pour vous. Et modestement, on essaiera d'apporter des idées par rapport à ça. On veut casser cette idée que c'est réservé à une élite. Tout le monde peut investir aujourd'hui et tout le monde devrait le faire, mais pas avant d'avoir vraiment, de s'être vraiment posé avec soi-même pour décider avant toute chose pourquoi on vit en fait, pourquoi on est là, ouais. Comment on veut occuper notre temps.
Ouais. Et au final, la raison qu'on va donner dans pas mal des autres épisodes, toutes ces raisons-là, elles vont être au service du cœur.
Yes. Eh ben, un gros merci à tous les deux de vous être rendus disponibles pour cet épisode. Merci encore une fois à tous ceux qui nous écoutent. Je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Si la discussion qu'on a eue peut-être vous a fait penser à un ami, à quelqu'un de la famille, vous avez envie de partager ce message, eh bien, on vous remercie d'avance de le faire. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde.
À bientôt.
À bientôt.